Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hello! Tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui clash le sexisme, et ça, on adore. Ce soir, on enregistre un podcast un petit peu spécial, puisque nous nous trouvons à l'Alhambra, un cinéma d'art et d'essai emblématique du 16e arrondissement de Marseille. Merci à vous pour cet accueil.
Vous pouvez faire un peu de bruit!
Wow. Merci. Alors moi, c'est Zina, je suis toute nouvelle dans l'aventure et pour être honnête, je suis émue, stressée même parce que c'est la première fois que j'anime. Je m'étais imaginé quelque chose d'un peu plus chill, j'avais pas pensé que je me retrouverais avec tout un public. Mais je suis super contente d'être là et je sais que ça va bien se passer parce qu'à mes côtés, j'ai plein de personnes hyper chouettes. À commencer par mes deux warriors préférés, co-animatrices averties et en l'occurrence mes amies. Je vous présente Elsa, aka Zazem. Coucou Elsa.
Coucou.
Et ma copine Marga, plume acérée, micro affûté, et à qui il ne faut surtout pas dire qu'elle est une féministe pas radicale, parce que ça, ça veut rien dire.
Ah, mais grave, salut Marga. Je suis tellement radicale et radicalisée.
Ce soir, nous avons aussi 3 street artistes féministes, dont Anna, du collectif des collages féministes de Marseille. Salut Anna.
Bonjour.
Bienvenue Anna.
On a aussi Laure, du collectif de Ménopause Rebelle, avec... avec Tiffane. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être là. On veut l'égalité et on la veut concrète. À commencer par quand on sort dehors, car oui, c'est le thème que nous avons choisi ce soir. La rue est à nous.
Yes, yes.
Alors l'espace public, c'est un thème qui nous tient à cœur dans le podcast. On en a beaucoup parlé plus d'une fois en fait dans plusieurs épisodes. Donc pour ceux qui veulent aller écouter d'autres épisodes qui sont un peu complémentaires de celui-ci, il y a notamment notre premier épisode qui s'appelait Warrior dans l'espace public. Il y a aussi notre 6e épisode Warrior dans le sport. Celui aussi sur les Warriors juniors, l'épisode 11. Et au sujet des femmes dans l'art, il y a notre épisode 27, Warrior dans l'art.
Alors juste après notre enregistrement, l'Alhambra diffuse un documentaire intitulé « J'irai crier sur vos murs » réalisé par Élodie Sylvain et Charlotte Rico et produit par 13 Prod. Il retrace l'histoire des collages féministes, une histoire qui commence ici, à Marseille justement. Pour en parler ce soir, nous avons invité une colleuse de Marseille. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
De nouveau. On a plein de questions. Elsa, je te passe le mic.
Alors déjà, avant de te poser des questions, je voudrais quand même dire bravo et merci à tous les groupes de collages féministes de France, parce que les meufs, vous avez transformé l'espace public depuis quelques années et je pense qu'on peut vous applaudir, vraiment. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est les collages, en quoi ça consiste? Très simplement.
Souvent le soir, on se retrouve en groupe et on colle des phrases sur le thème du féminisme, du sexisme, mais enfin sur plein de sujets de cette idée, quoi.
Okay. Quel genre de phrase? Enfin, moi, je les vois souvent, en fait, quand je me balade dans la rue le soir, et c'est clair que ça fait du bien. Moi, il y a une phrase qui me marque beaucoup, c'est des phrases comme « tu es forte » qui s'adressent directement à moi. Et, du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les phrases que vous collez sur les murs de Marseille?
Bah, du coup, en effet, on colle pas mal de phrases comme « tu es forte »,« je te crois » sur justement les victimes d'agressions et de viols pour justement, qui peuvent pas forcément parler et pour leur faire comprendre qu'on les croit et qu'on est là pour elles. Par exemple, durant la Pride, on a collé plusieurs phrases sur justement la LGBT-phobie. On colle aussi par rapport à l'actualité. Récemment, on a collé des phrases sur Zemmour, sur Darmanin, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on suit un peu aussi l'actualité pour un peu parler de choses actuelles, quoi.
Et on peut vous suivre sur Instagram sur le compte Collage Féministe Marseille. Il y a vraiment des super phrases. Et l'avantage, du coup, c'est que si on passe pas devant, au moins on peut les retrouver quand même. Récemment, le collectif s'est redéfini et emploie le mot colleureuse plutôt que colleuse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Déjà, nous, on a toujours été un groupe assez inclusif depuis un peu depuis la création du groupe, on va dire.
Préciser inclusif pour les personnes qui dans la salle ou à l'écoute n'ont pas forcément l'habitude de ces termes militants, mais en gros voilà, l'inclusivité dans le féminisme, ça veut dire qu'on se retrouve pas seulement entre femmes, mais on inclut aussi les personnes transgenres par exemple, enfin c'est votre cas, femmes ou hommes transgenres ou
les personnes binaires, voilà. Mais et donc du coup ça a toujours été un peu dans les préoccupations de notre collectif. Mais en effet, récemment, on a du coup changé le nom réellement pour un peu exprimer réellement qu'on était réellement inclusif, quoi.
Alors, occuper l'espace, c'est aussi poser des mots qui nous concernent. C'est détabouiser les sujets féminins. Alors qu'on peut voir des bites graffées un peu partout en ville hyper facilement, j'ai trouvé génial l'idée qu'on puisse croiser le mot « ménopause » tagué dans les rues de Marseille. Marga, je te passe le mic pour nous présenter l'initiative puissante et parlante de Ménopause Rebelle.
Et oui, mais c'est clair que ce mot ménopause, d'habitude, il est complètement vu de façon très péjorative, en fait. Enfin, c'est limite vu comme une maladie, en fait, la ménopause. Et vous, Laure et Ifan, vous êtes les meufs derrière ces tags qui sont un peu parfois mystérieux. On les voit, on se demande qui est-ce qui a bien pu les mettre. Donc, je suis super contente de voir vos visages qui se cachent. Donc, vos techniques, c'est surtout le pochoir. Et du coup, ce mot-là de ménopause, vous avez voulu vous le réapproprier. Pourquoi ?
Ici, ce soir, je dirais qu'on est deux. Moi, je suis rentrée à Ménopause Rebelle et j'étais ménopausée depuis bien longtemps, alors que Laure arrivait et qu'elle avait peur d'attraper la ménopause à notre contact. Donc, je crois que c'est une volonté de faire tomber le tabou autour de la ménopause et l'enfermement dans lequel, tout d'un coup, on range les femmes. Après, dans le groupe, il y a des femmes qui sont plus dans la tranche ménopausée. Mais je crois que ça a été, oui, se débarrasser de ce mot qui nous poursuit dès qu'on atteint 45 ans.
Alors, il y a un épisode, parce que J'irai crier sur vos murs, c'est un film, mais c'est aussi une série qu'on peut retrouver sur YouTube. Et dans l'épisode qui vous est consacré, il y a une de vous qui dit « On n'est pas des mamies bonnes à faire des confitures ». C'est aussi l'image des vieilles femmes, en fait, que vous avez envie de changer, j'ai l'impression. Parce qu'on a toujours cette image, c'est vrai, un peu de mamie Nova, quoi, quand on parle des femmes de plus de 50 ans.
Je reprends la parole parce qu'en fait c'est moi qui avais dit ça et voilà. Alors que j'adore faire les confitures, mais je veux pas être réduite à ça. Et ça fait partie de la même chose, quoi, d'oser rire, chanter, provoquer ce mot ménopause, ne pas être enfermée, mais je veux dire à n'importe quel âge, mais encore plus pour nous à partir de 45 ans, quoi.
Oui, parce qu'il y a aussi un des pochoirs qui était ménopausé et derrière il y a rebelle, punk, féministe. On n'a pas l'habitude d'imaginer, il n'y a pas de représentation en fait des femmes plus âgées, des vieilles femmes, disons le mot, dans ces rôles-là en tout cas. Je ne sais pas si Laure, tu as envie de réagir.
Oui, c'était mettre ces deux mots ensemble qu'on n'a pas du tout l'habitude de mettre ensemble. Et donc, au lieu d'être une femme ménopausée et sage, le mot rebelle, pour nous, était évident. et de nous donner aussi la force de continuer à être rebelles et de l'être. Et de continuer à être présente et surtout pas à s'effacer, quoi.
Eh ben bravo, en tout cas, c'est réussi. Le mot, franchement, il a été... Vous continuez à faire des pochoirs en ce moment? Vous avez des projets?
Là, on va se retrouver justement ce week-end pour décider de nos actions futures, de ce qui va se passer prochainement.
Ah là là, j'ai hâte. C'est clair.
Et du coup, alors là, c'est des questions qui sont valables pour vous trois. Je vais commencer avec toi, Anna, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le mouvement des colleuses?
Bah, je crois que comme enfin la plupart des personnes qui sont en collectif, on a tous et toutes subi des situations de sexisme. Enfin moi j'ai 21 ans et ça fait longtemps que je suis féministe et que je m'intéresse à ces sujets-là depuis le lycée quoi. Et en fait, disons que j'ai vu justement ces collages sur les murs et j'avais envie d'y participer. Pour moi, c'était aussi une manière de coller ma colère et les injustices que je vivais sur des murs et sur des choses concrètes quoi. Qui se voyaient. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était comme ça, quoi.
Action directe, quoi.
C'est ça.
Et vous deux, toutes les deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de crier sur les murs votre ménopause rebelle ou future ménopause rebelle, pour Laure?
Non, ça y est, hein, je suis ménopausée, donc je l'ai attrapée. Et oui, je suis très contente, c'est un vrai bonheur. Je vous souhaite tous d'être ménopausée.
Et pas tout de suite, dans quelques années peut-être.
Non, c'est moi j'aurais bien aimé plus tôt. Enfin, c'est vraiment très bien.
Et, libération, quoi, c'est la libération des hormones, des règles,
oui,
tout
c'est
ça.
Tout, c'est en plus ça très bien passé. J'étais très bien entourée, donc c'était parfait. Et donc de le mettre sur les murs, d'aller, c'est vrai que c'est une de nos actions les plus percutantes. Ces deux mots sont très jubilatoires ensemble, et de les mettre, ça montre une présence et ça permet de renvoyer aux gens la possibilité de faire ça et c'est très provocant et voilà, la provocation nous plaît en fait.
Provocant et illégal aussi. Dans le documentaire, tu disais que tu étais masquée, mais qu'on te reconnaît pas. Il y a quelque chose d'un peu hors la loi presque à aller graffer, enfin mettre des pochoirs à la bombe sur les murs.
Oui, bah c'est vrai que de toute façon, c'est pas. On peut être interpellé. Voilà, le mur n'appartient, même s'il est dans un lieu public, il appartient souvent à un propriétaire. Mais c'est surtout ce jeu, en fait, tout d'un coup, on devient ménopausé, mais on garde les mêmes envies de vivre, les mêmes envies de crier, de chanter, de faire la fête. Et à travers les pochoirs, on le dit. Tout d'un coup, on vient interpeller, on vient le soumettre. Ben oui, on est ménopausé, mais regardez, ménopausé, c'est aussi la vie. Et c'est en ça que je trouve que l'écrire sur les murs, ça ouvre des portes à certaines femmes hein, qui peuvent peut-être se replier quand elles sont ménopausées. Ça ouvre aussi la porte à tout un tas d'interrogations. Par exemple, il y a eu une fois, lors d'une manifestation où on mettait les premiers pochoirs, ménopause rebelle, et j'ai le souvenir de 3-4 jeunes qui étaient là et qui ne savaient pas, ils regardaient à la fois le pochoir, ménopause rebelle, ils regardaient ces femmes avec des cheveux gris, et on sentait toute une espèce de surprise, mais de surprise agréable. Ah oui, c'est vrai, une vieille, ça peut être aussi dans la rue, avec des pochoirs et avec des choses à dire, quoi. Et j'avais trouvé ça beau.
Oui, non, moi je trouve que c'est hyper inspirant, mais je pense que je vais être comme vous quand je serai grande.
Grave, vous êtes tellement des modèles.
C'est sûr. Et alors, du coup, ça va être intéressant de voir la différence de réponse. Mais toi, Anna, comment t'es devenue féministe? Parce que tu disais que ça arrivait au lycée. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Enfin, c'était quoi le processus?
Bah non, pas vraiment, parce que j'ai la chance d'être née dans une famille qui était plutôt ouverte sur plein de sujets. Enfin, mais mon père a un peu des comportements sexiste, mais disons que il m'a toujours parlé de sujets comme ça. Ma sœur, elle est assez féministe, donc disons que ça a toujours été plutôt normal pour moi d'être féministe. Mais disons que au lycée, j'ai commencé à vraiment lire des choses dessus, à vraiment m'intéresser à cette société et de me rendre compte que des choses que j'avais vécues étaient pas normales. Enfin, voilà, c'est-à-dire que je pense que ça a toujours été ancré. Mais disons que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser quand je suis devenue plus adulte et que du coup j'ai aussi plus vécu de situations, je pense, plus sexistes. Parce que du coup j'avais un corps de femme, donc du coup je subissais ce que c'était que d'avoir un corps de femme, quoi. je pense.
Et du côté de tes amis, par exemple, est-ce que tes amis aussi s'intéressaient aux questions féministes au lycée?
Alors, disons que j'ai beaucoup d'amis qui sont donc un peu dans la bourgeoisie lyonnaise, donc moyen, je dirais.
Donc,
enfin, un peu, mais moyen, quoi. C'est-à-dire que je rentre pas trop dans des débats profonds sur le sujet parce que ça ne mènerait à rien. Mais voilà. Mais sinon, j'ai quelques amis à Lyon avec qui je peux en parler. Mais sinon, c'était pour ça que c'était très agréable de rentrer chez les colleuses parce que je pouvais parler avec des gens qui comprenaient de quoi je parlais et qui étaient d'accord, enfin, sur moi avec plein de choses. Enfin, du coup, ça, c'était vraiment chouette, quoi.
Ouais, on est bien entre féministes, hein. Et vous, mesdames?
Je crois que je me suis déclarée féministe assez tardivement, mais que j'ai vécu féministe toute ma vie. D'abord parce que ma propre mère a pas fait de différence entre les filles et les garçons. Dans ma tête, j'étais pleine d'une liberté et que cette liberté, elle incluait le féminisme. Et après, en vieillissant, c'est en observant la différence tout d'un coup entre la génération de ma mère et de mes enfants, je me suis dit, mais en deux générations, ça a explosé. Et ça a explosé, et de là, j'ai vu l'importance d'affirmer cette explosion, d'accompagner un peu cette jeunesse et de m'inscrire complètement dans ce mouvement féministe. Voilà.
Alors moi, j'ai été élevée dans une famille féministe, donc... On était élevés à l'égal, les garçons et les filles. Donc ça, c'était très bien. Et après, j'ai plus eu une évolution dans mon féminisme. J'ai pas été forcément militante féministe. Et j'ai plus eu une évolution de passer de féminisme essentialiste à féminisme matérialiste. Moi, le livre, c'est de Valérie Solanas, que j'ai découvert très tard, et aussi c'était un questionnement de pourquoi ça arrive aussi tard dans ma vie, à 35 ans, alors que j'avais fait des études d'art, que ça aurait pu arriver avant, et que voilà, tout ce qui était masqué. Et,
est-ce qu'on peut préciser un petit peu ce livre, pour éventuellement, si des personnes voulaient...
Alors, c'est Valérie Solanas, c'est écrit en 68, et ça s'appelle, c'est un manifeste, il s'appelle Scoum Manifesto. Enfin, je le prononce mal, je le prononce à la marseillaise, mais...
Qui a été réédité, là, très récemment, en plus, ouais, voilà.
Quand trouve gratuitement sur internet, voilà aussi, parce que à chaque fois que c'est réédité avec des préfaces de mecs. Non, la dernière,
dernière préface, c'est une préface de Lorraine Bastide.
Donc, ils ont réussi. Voilà. Et donc là, c'est vrai que en rentrant en ménopause rebelle, c'est mes premières actions vraiment féministes.
Comme quoi,
il n'y a pas d'âge pour devenir féministe. Alors, est-ce que vous avez une œuvre dont vous êtes vraiment la plus fière? Donc toi, en l'occurrence, ce serait un collage que tu as fait ou qui t'a vraiment donné de la force?
Peut-être le premier collage que j'ai fait, où c'était « Mon corps n'est pas TripAdvisor, ton avis, tu peux te le garder » ou je sais plus, un truc comme ça.
C'est génial, j'adore.
Et en plus, c'était une phrase que j'avais, moi, peinte. Du coup, la photo, elle avait beaucoup circulé en plus sur les réseaux sociaux, et du coup, j'étais en mode genre, c'est moi qui l'ai faite, celle-là.
Génial.
Donc voilà, j'étais assez fière de ça.
Et du côté de Ménopause Rebelle, est-ce que vous vous rappelez d'une réalisation particulièrement marquante?
Oui, d'un week-end qu'on avait passé en campagne, et où on a, sur des rochers, sur des chemins, fait les pochoirs, ménopause rebelle, vieille et belle, vieille sous les cheveux gris, la rage, alors que c'est en pleine campagne. Et là, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, les gens doivent passer. Et j'ai trouvé très beau de faire ces pochoirs dans un endroit aussi inattendu, quoi.
Oui, et de revoir justement les colosses qui ont repris un des slogans qui était sous les cheveux gris, la rage. Ça a été repris par les colleuses. Ça, c'est de savoir que ça s'est recoché, que quand il y a eu un article après qui est sur le CQFD, ils ont repris aussi en chapitre de l'article. Donc, de voir que ça rebondit, que c'est repris, en fait, que ça se dilue, et va se diluer dans le bon sens, que ça se diffuse.
Il existe des féministes super badass qui réfléchissent à l'utilisation de l'espace public par les femmes, dont une géographe que je te laisse nous présenter, Elsa.
Alors, c'est Edith Marouéjoul, Elle est géographe, elle a notamment travaillé sur les espaces de loisirs pour les jeunes. Comment les filles et les garçons se partagent l'espace, par exemple les terrains de sport, la cour de récréation. Elle a mis en valeur le fait que les garçons occupent la quasi-totalité de l'espace quand les filles sont reléguées à la marge, dans les coins. Je pense que ça, tout le monde a pu l'observer à l'école. Hein.
Et ça, les filles qui jouent à l'élastique au bord et les garçons au foot voilà. En faisant beaucoup de bruit et beaucoup de bordel au milieu.
Ouais. Et en prenant toute la place.
C'est ça. Et elle travaille aussi sur l'espace public en général, donc on va l'écouter et après on pourra en parler.
Alors, est-ce que l'action des street artistes féministes peut contribuer à créer un espace public plus safe pour les femmes et les minorités de genre? Oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, si c'est aussi massif, hein, 99% des femmes ont subi une fois, au moins une fois dans leur vie, en 2019, des injures ou des attaques sexistes dans la rue, ça veut dire que c'est légitime. Et ça l'est pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est rendu invisible par probablement la récurrence, mais aussi le consentement collectif, et aussi par l'histoire du pouvoir patriarcal sur le corps des femmes. Donc l'injonction à l'intérieur, la relégation à l'espace privé lorsqu'on est à l'espace public, la problématique de la représentation des femmes en termes propres, hein, nom de rue, mais aussi les visuels hein, qu'on peut rencontrer, qui sont des visuels d'évaluation du corps des femmes, en particulier sur la question des publicités. Donc toute action féministe sur la rue prend une forme de cri, en fait, une forme de dénonciation, et qui, pour le coup, se joue dans l'espace collectif, hein, qui est l'espace de la citoyenneté, l'espace de la rue. Le fait aussi de le fixer, ça permet de le rendre durable et à ce que les gens s'arrêtent devant. Ça permet aussi l'expression artistique féministe dans la rue, de réhabiliter les femmes à leur espace, à l'espace du dehors, mais les réhabiliter aussi à leur immobilité, à la possibilité de s'arrêter, de regarder, puisque l'art permet aussi cette posture du corps. Et en général, la problématique pour les femmes, c'est pas tellement qu'elles soient pas dehors, hein, puisqu'elles sont obligées d'être dehors. Elles travaillent, elles ont encore toute la charge sociale des enfants, la charge domestique, les courses, etc. Enfin bref, tout ce qu'on connaît. Donc elles sont autant finalement dehors que les hommes. Par contre, ce qui les rend invisibles, c'est leur mouvance, leur impossible immobilité, le fait qu'elles soient fuyantes à l'espace. C'est-à-dire qu'elles sont dehors pour des mobilités utilitaires. Si elles marchent, si elles vont du travail au centre commercial, à la crèche ou à l'espace sportif, de pratique sportive pour les jeunes filles, par exemple. Exemple, bien là ça va. Mais dès qu'elles vont s'arrêter, prendre une place physique, en fait, qui est d'ailleurs la place de la citoyenneté, hein, au dehors, l'immobilité, alors là par contre ça devient dangereux et problématique pour elles.
Alors, super intéressant tout ce qu'elle raconte.
Je pense qu'on pourrait passer la soirée à décortiquer point par point exactement tout ce qu'elle dit.
Donc voilà, donc ça c'est quand même des chiffres qui sont assez sans appel, hein, j'ai envie de dire. Quand on entend toute la journée, oui mais pas tous les hommes, etc. Oui, d'accord, mais en fait par contre tous les agresseurs sont des hommes. Et ça c'est quand même important de le rappeler.
C'est ça, donc soit en fait il y a trois mecs qui font le tour de France pour agresser toutes les femmes, soit en fait y a des agresseurs en fait dans notre quotidien, c'est-à-dire dans nos familles, au travail, parmi nos amis. Faut aussi prendre conscience de ça, ouais.
C'est ça. Déjà, l'injonction à l'intérieur, ça, c'est vraiment quelque chose qui date de très longtemps, hein. Le fait que les femmes soient toujours à la maison, avec les enfants, à la cuisine, etc., etc., et que l'espace public, ce soit vraiment, elles y soient que en touriste, comme elle dit, juste pour aller d'un endroit à l'autre. Et je pense que ça, on l'a toutes vécu, ce truc de, on va pas se flâner, se poser sur un banc. Enfin, ça me viendrait pas à l'esprit de me poser sur un banc toute seule dans la ville, quoi. Je me dis, je sais que je vais me faire emmerder. Cette histoire, donc, des mobilités utilitaires, en fait, c'est ça, quoi. C'est le fait qu'on trace et qu'on s'arrête pas parce que c'est dangereux. On l'a tout intégré, en fait, que c'est dangereux. Et l'autre chose dont je voulais parler dans ce qu'elle a dit, c'est les visuels d'évaluation du corps. Ça, j'avais jamais entendu ce terme, mais en gros, c'est toutes les publicités où on voit des femmes sexualisées, souvent dénudées, etc.
Des femmes à poil sous la douche, en gros, souvent. Ou...
Voilà.
Ou même des bouts de corps, en fait, sur des publicités pour des sous-vêtements. Parfois, on voit des culs de femmes ou des seins de femmes.
Et voilà. C'est totalement normalisé, quoi.
C'est ça.
Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça sur, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce genre d'image dans la rue? À quoi ça vous fait penser?
On s'y est beaucoup habitué, en fait. Il y a ça, hein. La femme est représentée avec des sous-vêtements légers, Et moi, ça me renvoie à autre chose qui n'est pas de la, dans la rue, mais qui est par exemple à la télévision. J'ai eu l'occasion, avant que ma mère décède, de regarder un peu la télévision avec elle. Et comme je suis à ménopause rebelle, toutes les pubs, c'est contre les se protéger des fuites urinaires, la colle pour l'appareil dentaire, et ça concerne toujours que les femmes, que les femmes. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, moi, j'aimerais coller des femmes difformes, mais provocantes et belles, quelque chose dans la rue, en réaction à ça, qui enferme la femme dans...
Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que les hommes ne vieillissent voilà. pas, en fait.
Ah oui, enfin... la fuite urinaire, c'est que la femme, l'appareil dentaire qui se décolle, c'est que la femme.
Les hommes prennent en expérience, en fait. Et nous, on vieillit, et nous, on périme.
Anna, moi du coup maintenant je suis habituée un peu à les voir, donc du coup c'est un peu dans le quotidien. Mais quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à avoir un corps qui correspondait pas trop à l'image de ces pubs, ça m'a un peu complexée en me disant genre. Mais en même temps je me disais en fait que c'était pas grave, mais que du coup en fait c'est frustrant de pas avoir de corps qui te correspond. Mais je trouve que on commence un peu à en voir. Et je me rappelle quand j'étais au lycée justement, j'étais allée chez ma sœur à Bernay en Normandie, et il y avait un magasin qui avait justement un mannequin gros en fait, et c'était la première fois que je voyais ça, j'avais genre 16 ans et j'étais genre c'est trop cool, ils ont genre un vrai mannequin gros à la vitrine et tout, j'étais genre c'est trop bien. Donc je trouve que ça commence un peu, on commence à voir plus des exemples de personnes un peu différentes, mais disons que ça peut être complexant, je trouve.
Bah, c'est moins qu'on puisse dire, ouais.
C'est déprimant, ça dit quelque chose de à quel point c'est une violence, l'omniprésence de cette hypersexualisation de nos corps, et le fait qu'on se soit habitué, que ça nous complexe, que ce soit notre référentiel, ça a des conséquences catastrophiques sur l'estime que les femmes ont d'elles-mêmes, en fait, même sur leur comportement alimentaire, sur leur présence dans l'espace public, puisque finalement, effectivement, l'espace public, on l'entendait dans le témoignage d'Edith la géographe, mais il est vu comme un espace transitoire pour les femmes, hein, puisqu'on va d'un point A à un point B. Il y a cette répartition qui date de l'entrée dans le capitalisme, en fait, hein, ce truc hyper rationalisé de dire les hommes font du travail et c'est productif et on les voit, et les femmes, elles sont à la maison et c'est du travail pas rémunéré. Voilà, du coup, l'espace public il accueille pas les femmes. Et en France, même juste en France, il y a seulement 4% des noms de rue qui portent des noms de femmes. Ça, je trouve ça assez emblématique. Et même s'il y a des géographes comme Edith que nous venons d'entendre, ou d'autres femmes qui sont super investies sur ces sujets et qui réfléchissent à proposer des solutions comme élargir les trottoirs ou changer les éclairages, il y a un vrai enjeu à occuper l'espace dès maintenant, autrement et créativement. Et ça, franchement, c'est génial parce que les warriors ne manquent pas de créativité. Marga, je te laisse tout nous raconter.
En fait, l'année dernière, je vais raconter un petit peu ma life. J'ai rejoint une chorale féministe. En fait, c'est une chorale qui est ouverte à tous, sauf aux mecs cisgenres. On apprend des chants militants qu'on chante pendant les manifs. Dans le répertoire, on a des chansons d'Anne Sylvestre, on a un hymne mexicain en hommage aux victimes de féminicide, on a des parodies de reggaeton, voilà, c'est ces chansons hyper sexistes qu'on entend souvent en boîte de nuit. Alors, et la première personne à m'avoir parlé de l'existence de ce genre de chorale, c'est une amie très chère à moi, Elsa, que j'embrasse très 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 fort. C'est pas Elsa qui est assise en face de moi, c'en est une autre, pour pas qu'il y ait de mélange. Donc Elsa, elle est maman solo d'une petite fille, et tous les mardis soirs, elle prend sa fille avec elle et elle va au répète des Grenades Rouges. C'est une chorale féministe à Nice, mais avant ça, elle vivait à Marseille, et évidemment, c'est à Marseille que toute l'histoire a commencé.
Alors la première fois où j'ai chanté dans une manif et dans la rue, c'était en 2015 à Marseille, en mars je crois, la première manif non mixte. Et j'avais pas prévu de chanter, enfin j'étais pas venue pour ça, mais en fait il y avait des livrets, il y avait des slogans, enfin voilà, et en fait c'était hyper, comment dire, une révélation quoi, ça m'a fait trop de bien de voir qu'on pouvait faire... unité et chanter ensemble. C'est aussi un moment fort où on arrivait à faire bloc et en fait à repousser, comment dire, s'il y avait des mecs cis relous qui voulaient s'incruster dans la manif, ben on arrivait à les repousser en chantant, quoi. C'était comme un truc hyper puissant sans avoir besoin d'expliquer ou d'utiliser de la violence ou de s'énerver, ben, en fait, de chanter à plein des slogans ou sur quelqu'un qui nous énerve, en fait, ça, c'est hyper puissant. Donc voilà, j'ai vraiment trop kiffé, du coup j'ai continué. Et on a créé ensuite une chorale féministe non mixte, les Cagolphoniques, et on a continué à chanter pendant des années. Quand je chante, moi, ça me fait vraiment une sensation de puissance. J'ai l'impression que c'est un peu le seul moment où j'arrive à crier, à parler fort. Donc ça fait du bien, quoi. C'est là où je relâche, et ce que je fais pas forcément dans mon quotidien. Et dans la rue, c'est encore plus puissant parce que j'ai envie qu'on nous entende, j'ai envie qu'on nous écoute. Bah, c'est pas toujours le cas, mais en fait, qu'on nous entende, oui, en général, on arrive à se faire entendre. Et c'est chouette. J'espère que, bah, qu'on sera de plus en plus à le faire. Et c'est une façon de militer et de reprendre la rue qui est forte et qui fait beaucoup de bien.
Yes, merci beaucoup Elsa. Je suis vraiment super contente de t'entendre témoigner ici.
Peut-être juste un petit point vocabulaire sur la fameuse non-mixité choisie qui a tellement fait grincer des dents.
Oui, c'est ça. Genre quand c'est interdit... Quand c'est interdit aux hommes, tout de suite, ils ont envie de venir.
Exactement.
Et ouais, c'est super intéressant. En fait, voilà, en gros, le non-mixité ou mixité choisie sans mec cis, c'est un peu les deux termes qui sont employés dans les milieux militants. C'est pour dire, en fait, comme les coloreuses, en fait, c'est pour dire, en fait, on accueille tout le monde, sommes les hommes cisgenres. Donc, pour rappeler, une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Donc, généralement, c'est basé sur les organes sexuels. Un bébé qui naît avec une vulve, voilà, c'est une fille. Et un bébé avec un pénis, un garçon. Les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette identité de genre sont soit des personnes transgenres, des personnes non-binaires. Et voilà, ces personnes-là, généralement, sont également les bienvenus dans les luttes féministes, parce que les luttes féministes sont aussi leur lutte, parce que ils et elles, vivent aussi le sexisme. Donc voilà, il faut qu'on lutte tous ensemble. Et oui, c'est vrai, ce que dit Elsa, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est le fait de parler fort. C'est vrai que on a l'habitude de m'entendre dans le micro. Voilà, je dis souvent ce que je pense, mais c'est vrai que dans la rue, je fais très souvent profil bas dans les cas d'agression. Et c'est vrai que de chanter en groupe, c'est vraiment archi puissant. Enfin, moi, je me rappelle d'une des premières manifs que j'ai faite justement avec Elsa et ses potes qui chantaient des slogans du genre « La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi grand que ma gueule, aussi fort que ma gueule !» Et en fait, c'est génial, quoi. Enfin, ça te met le feu, quoi. Enfin, et j'adore. C'est clair que ça fait énormément de bien. Vraiment, je vous encourage à y aller. Donc, la chorale avec laquelle je répète qui n'a pas encore de nom, c'est les deuxième et quatrième samedis de chaque mois à 10h30 au Parc Longchamp. Et Elsa, donc, les Grenades Rouges, donc, se réunissent tous les mardis à 18h30, 29 route de Turin à Nice, au Diable Bleu. Vous pouvez aussi les trouver sur Insta, les Diables Rouges. Il y a certainement une chorale féministe près de chez vous. Ça vous donne envie de nous rejoindre toutes?
Mais grave,
grave. Moi, je suis déjà venue à des répètes de la chorale.
Non, voilà. On ne s'est pas croisés.
Non.
Trop bien. C'est peut-être le moment de la fameuse question à 1 milliard d'euros.
Allez.
Si on vous donnait 1 milliard d'euros pour aménager l'espace public, les filles, une idée comme ça?
Moi, un des trucs que je ferais, c'est très prosaïque, mais c'est que j'aménagerais vraiment des chiottes publiques partout. Et quand je dis chiottes publiques, c'est pas juste mettre un toilette et c'est bon, terminé. C'est mettre des toilettes publiques avec du papier, avec des poubelles, avec des tables à langer du côté des hommes et du côté des femmes, et des personnes rémunérées correctement pour les nettoyer également. Une des choses pour moi qui rend l'espace public compliqué pour les femmes, c'est où est-ce qu'on peut aller faire pipi. Donc les hommes, ils ont réglé le problème, hein, ils font pipi n'importe où, ça pue, c'est dégueulasse, ça emmerde tout le monde, mais bon voilà, hein, c'est chez eux, donc ils en ont rien à foutre. Alors que voilà, pour les femmes, c'est vrai que c'est un énorme problème des fois dans certaines situations. Moi notamment en tant que journaliste, parfois je suis amenée à être en reportage et en fait des fois il y a pas moyen d'aller pisser, quoi. Et c'est horrible, on doit se retenir. Ce serait déjà un premier pas vers un lieu plus accueillant pour les femmes et aussi pour les enfants, notamment pour les jeunes enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour aller aux toilettes. Et moi, je me rappelle une fois d'avoir vu un petit gamin pisser dans la rue, ça m'avait choqué. Je lui ai dit, enfin, c'est fou, hein, ce petit garçon, il a un rapport à l'espace public complètement différent. Il a envie de faire pipi, hop, il pisse dans la rue, alors qu'une petite fille va devoir se retenir, c'est-à-dire contrôler son corps d'un besoin physiologique, quoi. Donc moi, c'est le premier truc que je fais, c'est les chiottes.
Moi, ce serait du coup plutôt des lampadaires, je pense, de partout, mais aussi que les magasins...
Attends, t'as 1 milliard d'euros, hein, donc pas juste... tu peux imaginer des super lampadaires.
Mais voilà, des lampadaires, et que les magasins éteignent leurs vitrines le soir, parce que écologiquement, c'est une catastrophe, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais que du coup, à la place, il y ait de la lumière, mais du coup, dans des lampes de partout, quoi. Parce que ce qui peut être flippant quand on rentre chez soi, c'est quand il y a des rues sombres, et que comme ça, voilà, qu'il y a vraiment des lampes de partout, quoi. Je pense que c'est un des premiers trucs. Et du coup, des noms de rues de femmes plus aussi, peut-être.
Mais ça, déjà, ça coûte pas cher, par contre, les noms de rues.
C'est vrai.
Mais déjà, fou,
déjà des lumières de partout. Déjà, ce serait bien.
Alors, finalement, moi, j'enlèverai la publicité. Donc, j'enlèverai tous les panneaux. Ça ferait de la place. Effectivement, agrandir les trottoirs, ça, c'est bien. Plus de transports en commun, mais pas des gros bus, quoi. En fait, des choses plus... plutôt en navette, etc., pour transporter encore collectivement les gens, qu'on soit pas individualisé à chaque fois, d'afficher et de taguer ce qu'on veut sur les murs.
Ah ouais, super.
Que ça soit pas recouvert. Et
Il reste encore du budget sur le milliard, je crois.
Ouais, il en reste. Tu as des idées?
Oui, des bancs, des tables, des endroits où se poser qui ne sont pas aménagés en vue d'une utilisation particulière.
Bonne idée aussi, oui, on puisse se retrouver pour pique-niquer, faire des réunions, travailler, jouer avec des enfants.
Occuper l'espace, en somme.
Remettre du sable sur la plage du prophète.
Je vote pour.
Oui, à Marseille, la plage, c'est très, très important.
Marga, je te propose de passer au courrier des auditeuristes.
Allez, c'est parti.
Yes.
Alors, ce mois-ci, dans la boîte aux lettres de Yes, on a reçu un appel à l'aide de Hélène. Et je pense qu'à Ménopause Rebelle, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Alors, elle est chanteuse lyrique. Elle a 33 ans. Et dans son métier, comme au cinéma, en fait, les femmes disparaissent quand elles vieillissent. Alors, elle a 33 ans, hein, et déjà, elle a des remarques sur le fait qu'elle vieillit. Laisse imaginer le truc. Alors, au cinéma, on appelle ça le tunnel de la femme de 50 ans. C'est-à-dire que si vous regardez les actrices, généralement, à partir d'un certain âge, qui correspond à la ménopause, souvent, il n'y a plus de rôle pour elles, en fait. Enfin, même sur des histoires de couple, vous allez toujours voir des vieux acteurs avec des jeunes actrices, comme si les femmes ne pouvaient plus jouer des rôles de femmes passées un certain âge. Et donc, Hélène donc, nous écrit « J'ai vécu à de nombreuses reprises du sexisme bienveillant et malveillant, notamment de la part d'agents qui me font comprendre que mon âge pose ou va poser problème. » On anticipe le problème, quoi. Je suis dans la suranticipation de ce genre de remarques et je n'ai toujours pas trouvé la punchline qui va bien. Est-ce que vous auriez des idées ? Donc, on a demandé à la communauté des Warriors sur les réseaux sociaux. Et sur Insta, on a Victo GCC qui te conseille, Hélène, de répondre. Et Pavarotti, il avait quel âge, tu penses, quand on lui a dit que son âge allait poser problème ? Ça peut être une punchline. Alors, et vous, est-ce que l'une de vous a une idée ?
Oui, je serais partie sur cette idée-là, quoi, de prendre quelqu'un, un chanteur lyrique connu. Ils ont l'air tous vieux, hein, ces gars. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà, l'exemple par l'absurde, quoi, par l'inverse. C'est une bonne idée, ouais. Et vous répondez quoi, vous, dans la vie, à ce genre de remarques, quand on vous dit « Oh, mais à ton âge, quand même » Est-ce que vous avez des réparties
ou... Je dis « Quel âge ?»
Je peux te partager la recette des confitures, si tu veux.
Ben, on sait aussi que dans la société, la ménopause, on va dire que c'est 47 ans, mais qu'à partir de 38, 40 ans, on commence à parler de grossesse tardive, dangereuse, à risque. Donc, la femme, est bien avant d'être ménopausée, elle est déjà considérée comme moins performante.
Sur le déclin.
C'est vrai.
Voilà.
Du coup, si vous avez des questions pour nous toutes, on a un micro qui se balade, donc si vous le souhaitez, il y a une question là-bas.
Oui, c'était sur la question à 1 million de dollars.
Ah, une suggestion peut-être.
Oui, j'avais envie de donner des suggestions. On a oublié qu'il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap, et je pense que aménager le territoire et les espaces publics pour tout le monde, ce serait bien. Et puis on a oublié aussi qu'il y avait des personnes SDF, et je pense que peut-être rendre l'espace public accessible à tout le monde, ce serait bien aussi.
Juste, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire parce que c'est hyper important. C'est vrai qu'on a parlé de la géographie du genre de façon générale et qu'évidemment, la question du handicap, mais aussi de la grossophobie, des transports publics, des bancs publics, des SDF, est partie prenante de ce combat. Et en fait, quand on voit le peu de bancs publics qu'il y a, le fait que c'est pas possible de s'asseoir, qu'il y ait une architecture exprès anti-SDF, ou que les bancs soient beaucoup trop durs pour nos corps de femmes, que dans les transports publics, les espaces sont beaucoup trop petits pour nos corps, qui peuvent être gros ou grosses. C'est une vraie question qui nous permettrait aussi de nous rassurer et de nous permettre d'être bien plus à l'aise dans l'espace public. Donc, entièrement d'accord avec toi.
Oui, bah, vu qu'on en est sur l'espace public, je pense qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé, qui est assez logique, mais des serviettes hygiéniques et des tampons partout. Tellement. Et si possible, des serviettes hygiéniques et des tampons partout, mais sans parfum, sans fraise-gomme, sans toutes ces choses qui soient bio et qui fassent pas de mal à notre corps. Franchement, ce serait plutôt pas mal, accessible. Et puis, gratuit, pourquoi pas ? Gratuit.
Mais c'est clair, mais évidemment, on a 1 milliard d'euros. Donc
1 milliard, c'est bon. Il y a plein de gens qui ont leurs règles en vrai.
C'est vrai.
Tellement.
Voilà, et merci beaucoup pour votre présence. Moi, personnellement, vous avez provoqué chez moi une révolution féministe à partir de votre podcast. Je me suis intéressée à trop de choses et merci pour ça. Merci.
Oh, merci beaucoup. Merci. Franchement, ça me touche vraiment ce que tu dis parce que c'est d'abord pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour trouver un lieu à la fois où on partage nos luttes, où on partage nos victoires et aussi où on s'informe et on s'éduque. Donc, on est super contente à chaque fois que quelqu'un nous dit ouais, bah, ça fait tilt. Et bah, bienvenue dans la communauté des Warriors.
Ok, c'est la fin de cet épisode.
Déjà ?
Eh oui, moi aussi, je suis triste. On a été super heureuses de vous retrouver. Merci Anna, merci. Laure, Ifan pour votre présence. Merci Edith et Elsa pour vos témoignages. Vous êtes tous des Warriors.
Et on peut vous applaudir.
Yes, saison 4 est un podcast produit par Justine Pérez avec Franck à la réal et au montage. La musique est signée Mathieu Pernaud. Merci à l'Alhambra pour l'accueil chaleureux. Pour faire grandir la communauté des Warriors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux @yespodcast. Yes avec 3 S. Vous pouvez aussi faire tomber une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et nous laisser des commentaires. Pour le prochain épisode, on va parler d'un sujet super croustillant, à savoir money, 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 money. Tu as réussi à négocier ton salaire ou à t'extirper d'une relation où ton mec te prenait pour une vache à lait? Tu as trouvé la force d'arrêter de bosser gratos ou de compenser ton engagement à la maison? On attend tes témoignages de victoire avec impatience.
Oui, écris-nous.
Tu peux nous laisser un vocal sur WhatsApp au 07 45 65 56 75 ou par mail warrior@yesavec3spodcast.fr. En attendant, surtout, ne lâche rien, on est avec toi. Tu as avec toi toute une communauté qui croit en toi, qui lutte pour toi. On est tous ensemble et on va tout défoncer. Nous sommes les Warriors. Wouhou!